Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'accueille Guillaume Moubèche, qui est le cofondateur de Lemlist, qui est un logiciel de prospection qui permet de créer des emails personnalisés. Donc, c'est quelque chose qui va être vendu notamment à des équipes commerciales qui vont démarcher les prospects pour essayer d'avoir un rendez-vous et de les faire acheter et qui cherchent à le faire à la fois à grande échelle et à pouvoir automatiser toute une partie du processus et à la fois pouvoir avoir de la personnalisation dans chacun de ces emails. Et c'est la niche que Guillaume a trouvée dans le domaine finalement très concurrentiel des logiciels de prospection en B2B. Et Lemlist, c'est une vraie success story parce qu'ils n'ont pas levé d'argent, ce qui est relativement inhabituel dans le milieu dans lequel il est issu, le milieu de la startup. Et donc, sur ses fonds propres, Lemlist est passé en 2 ans de 0 à 1 million de ce qu'ils appellent l'ARR, donc Annual Recurring Revenue, pour revenu récurrent annuel, ce qui veut dire que vous prenez tous les paiements récurrents qu'ils ont sur le mois, vous multipliez par 12 et ça vous donne le revenu récurrent annuel de la boîte qui est du coup en excellente croissance. Il parle d'une croissance de 30% par mois. Donc, ils ont trouvé la bonne niche sur le bon marché avec le bon client, avec la bonne stratégie de marketing. Avant de rentrer dans l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez recevoir chaque lundi ma newsletter avec les meilleures idées dans le domaine de la persuasion, du marketing, de l'entrepreneuriat, de la productivité que j'ai trouvé dans la semaine. Pour le recevoir, il suffit de vous rendre sur marketingmania.fr/mix. Et sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Guillaume Moubèche. J'ai envie que tu me parles de l'origine de l'idée et de comment est-ce que tu as eu l'idée pour Lemlist. Il me semble que toi, tu faisais pas mal de prospection, mais ça reste quand même un truc où les gens se disent, tiens, comment je fais pour trouver une idée qui est différente? Et surtout, les gens se disent, mon idée, elle est déjà prise. Si c'était une si bonne idée que ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui fait ce logiciel-là? Donc, parle-moi de comment est-ce que l'idée a émergé, comment est-ce que tu as décidé qu'elle était bonne? Et puis après, on parlera de comment tu l'as validé concrètement sur le marché.
Ouais, bien sûr. Alors, en fait, à la base, moi, j'avais une agence d'acquisition. Donc, en fait, on faisait beaucoup de campagnes de prospection pour nos clients. Donc, des campagnes de prospection par mail. Et en fait, j'utilisais quasiment tous les outils du marché. Je les avais testés, que ce soit des plateformes comme Salesloft, Reply, Outreach, etc. Je connaissais vraiment bien ce que ces plateformes faisaient. Et en fait, j'étais assez frustré par le niveau de personnalisation qu'elles autorisaient à mettre en place, tu vois. Donc, en fait, c'était vraiment du texte, des variables comme le prénom, le nom de la boîte, etc. Mais il n'y avait pas possibilité de faire des conditions, pas possibilité de rajouter, tu vois, des images ou des vidéos. Et donc, en fait, nous, ce qu'on faisait à l'époque avec l'agence d'acquisition, c'est j'avais des clients où, en fait, nous, comme à la base, moi, je suis de formation ingé, même si j'ai fait une école de commerce après, j'avais, tu vois, vraiment mon côté cerveau ingénieur où je fais des matrices de tests. Et je testais énormément de techniques différentes pour de la prospection. Et on avait remarqué que quand on faisait des images personnalisées, on arrivait à avoir des taux de réponse qui étaient un peu plus élevés. Et quand on faisait des vidéos, c'était encore mieux, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est con que toutes ces plateformes ne permettent pas de le faire. Et à la base, en fait, ce qu'on faisait, c'est que moi, je recrutais énormément de personnes sur Upwork quand j'avais l'agence. Donc, quand je dis beaucoup, c'est genre des trentaines de personnes qui allaient scraper de la data, préparer les listes ou même parfois créer ces images justement personnalisées. Et donc, après ça, tu vois, quand on a fait des tests sur les campagnes et qu'on a vu que ça fonctionnait bien, je me suis dit, c'est dommage de ne pas pouvoir scaler ça. Et à l'époque, du coup, j'étais à Station F, donc qui est un gros incubateur de start-up à Paris. Et j'ai commencé à côtoyer deux personnes qui s'appelaient François et Vianney, qui étaient plus âgés que moi, donc aux alentours de la quarantaine, codeurs depuis qu'ils sont bébés, donc vraiment des brutes en code, et qui cherchaient justement à lancer un nouveau projet. Et donc, on a commencé à discuter de cette idée et eux, ils se sont dit, en vrai, on peut le faire. et du coup, on a lancé, en gros, en 3 semaines, ils m'avaient sorti une bêta qui était vraiment... on va l'appeler, on va dire qu'elle était dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Mais en gros, leur but, c'était on te code la bêta, toi, tu es jeune et tu fais un peu de business, montre-nous que tu peux la vendre. Et si tu nous montres que tu arrives à ramener des clients, là, on passera plus de temps pour coder un vrai produit propre et t'aider à le lancer, quoi.
Et donc, du coup, tu as été le vendre à qui ce premier produit?
Alors, en fait, tu vois, moi, je me suis basé directement sur le pain point que les personnes ont quand ils font de la prospection. C'est-à-dire que quand tu envoies une campagne de prospection, le vrai pain, c'est que tu n'arrives pas à booker des meetings. Et donc, en gros, ton taux de réponse, il est faible. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à utiliser Lemlist. J'ai utilisé notre propre outil pour faire des campagnes de prospection avec des images personnalisées. Donc, j'ai contacté, tu vois, j'avais déterminé mes personas qui étaient en gros des fondateurs de startups. Donc, tu vois, je voulais des gens qui puissent, qui soient assez tech savvy, donc qui savent utiliser des plateformes software, qui soient potentiellement, donc qui aient potentiellement déjà des SaaS, donc qui aient construit des softwares et qui soient en recherche de croissance, donc qui soient prêts à utiliser des outils de prospection. Donc, ça, c'était un peu mes critères. Donc, j'ai lancé d'abord des campagnes comme ça. Et en fait, ma première campagne, j'ai dû choper genre un taux de réponse genre à 30 ou 40%. Et donc, du coup, j'ai fait un screenshot de cette campagne. Je l'ai mis dans une communauté sur Facebook en disant « Hello à tous, je viens de lancer un outil qui permet de choper ce type de taux de retour. » Donc, tu avais genre 80% de taux d'ouverture, 40% de taux de réponse, etc. Et je mettais « Si vous êtes intéressé, commentez intéressé dans le thread en dessous. » Et je vous enverrai un lien pour faire partie de la bêta privée, tu vois. Et là, j'ai eu genre une centaine de commentaires. Et du coup, je me suis dit, bon, OK, on a peut-être quelque chose, on tient peut-être quelque chose là.
Donc là, en gros, tu leur proposes, je veux augmenter ton open rate. Donc, tu n'es même pas encore allé directement sur la vente puisque ton truc, tu ne le vends pas encore. Et en fait, ce que tu veux montrer, c'est je suis capable d'avoir 100 personnes qui ont un commentaire, qui sont intéressées. J'ai déjà validé mon truc où je peux convaincre en gros mes cofondateurs de mettre plus de 3 semaines dans le produit.
Ouais. Ouais, c'est exactement ça. En gros, tu vois, tu te dis, OK, en fait, le screenshot, tu vois, limite, j'aurais pu le faker et faire un truc totalement que j'aurais pu faire sur Photoshop ou autre, l'envoyer et ça permet de tester rapidement, tu vois, si les gens sont intéressés ou pas, en fait.
Ouais. Au bout de combien de temps, tu arrives sur Product Hunt après ça? Hello, c'est Stan. Je fais un petit insert pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est Product Hunt. Product Hunt, c'est un site web sur lequel les startups vont souvent poster leurs produits et leurs sites pour que les gens puissent voter dessus. Et c'est un espèce de concours de popularité tous les jours où on va voter. Et la meilleure startup, la plus virale, celle qui a été la plus convaincante pour l'utilisateur du site, va se retrouver en pole position. C'est un outil très populaire dans le milieu de la startup et c'est considéré comme étant extrêmement juteux de pouvoir être bien placé sur Product Hunt. Et vous allez voir que l'Aimlist était passé numéro 1 sur une journée sur Product Hunt.
Alors en gros, bah justement, en fait, le lancement dans ce groupe qui était spécialisé, en fait, c'était un groupe où il y avait beaucoup de personnes qui faisaient de la prospection. Donc, j'avais bien ciblé mon groupe parce que je savais que c'était des gens qui étaient intéressés pour de la prospection. Et en gros, il y a un des mecs de cette communauté qui a vu ça et qui avait lancé aussi un outil en même temps, donc un Indien, et qui a décidé de dire, annoncer publiquement qu'il lançait cette feature qui nous différenciait, qui était l'image, la personnalisation d'image. Et il a dit, moi aussi, je vais le lancer, etc. On bosse dessus depuis trop longtemps, alors que le gars, en fait, il avait repris les screenshots qu'on avait mis sur la landing page que j'avais fait, tu vois. Et donc là, je me dis, putain, genre, moi, je voulais attendre avant de lancer sur Product Hunt parce que, tu sais, normalement, ça se prépare pendant des mois, le lancement, etc. et tout. Et là, je me dis, comme c'est le seul truc qui nous différencie aujourd'hui, j'ai pas du tout envie qu'il y ait quelqu'un qui le lance en se disant que c'est lui le premier à l'avoir fait, alors qu'en fait, il a juste copié notre idée. Donc, on y va, tu vois. Et donc, en gros, si tu veux, nous, on a commencé, en gros, peut-être 3 semaines après avoir lancé la bêta, on était sur Product Hunt. Et là, du coup, on a terminé premier ce jour-là. Donc, on s'est dit, OK, le message passe bien, les gens voient l'intérêt. Par contre, donc ça a généré des centaines de sign-up, mais la rétention était vraiment nulle parce que le produit était pas du tout là.
Parce que l'outil était utilisable ? Les gens pouvaient quand même l'utiliser, s'inscrire.
Ouais,
c'était gratuit.
Ouais, c'était gratuit. Ils pouvaient s'inscrire, ils pouvaient tester. Tu sais, c'était vraiment en mode SaaS, donc 2 semaines de free trial. Enfin, c'est ce qu'on indiquait, tu vois. Alors qu'en vrai, on n'avait même pas codé encore la partie paiement. Hein. Mais du coup, tout le monde pensait que c'était 14 jours et qu'après, on allait leur demander leur carte de crédit. Et en fait, on se rendait compte que l'outil, tu vois, il n'était pas du tout au niveau des attentes que les gens avaient et de ce qu'on vendait sur la landing page, quoi.
Est-ce que c'est un regret d'avoir lancé un truc pas encore top? Est-ce que tu penses que ça t'a nui par la suite? Est-ce que tu penses que c'était plutôt la bonne chose à faire? Comment est-ce que tu vois la décision de s'être lancé à ce moment-là avec le recul?
Aujourd'hui, je le ferai clairement pas, mais je suis dans une position qui est un peu différente aussi parce que du coup, à l'époque, tu vois, j'avais pas d'audience, j'avais pas de clients, mais en fait, ça nous a un peu desservi parce que tu vois, tu as beaucoup de personnes, donc, dont des top compagnies, notamment aux US, qui ont créé leur compte et qui ont vu le produit, ils étaient très déçus. Mmh. Et donc, en fait, ces gens-là, on n'a jamais pu les récupérer, tu vois, par la suite. Parce que, en fait, une fois que tu es déçu, je pense que ça casse un peu un truc. Et il y en a certains qu'on a récupérés, tu vois, un an et demi après, et qui ont dit, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais vu et tout. Et genre, j'étais là, ben bah, ouais, en vrai, tu avais vu un truc qui avait été codé en 3 semaines, quoi. Et donc, du coup, c'était un peu délicat. Et ouais, clairement, je pense que je l'aurais fait différemment. Et là, d'ailleurs, tu vois, on lance en fait une toute nouvelle version de Lemlist, et on va fonctionner avec liste d'attente, bêta privée. Et on fait payer les gens qui sont dessus, quoi, tu vois. Et ça sera pas du tout comme là où c'était vraiment libre service, tout le monde peut venir.
Donc la bêta privée est payante ou tu fais
Ouais.
payer
Ouais,
après
ouais,
la bêta?
ouais. Non, la bêta pour rejoindre, c'est payant, quoi, sur la nouvelle. Ouais.
Donc du coup, les gens doivent directement acheter. Ça veut dire que directement, le truc a été quand même beaucoup plus avancé. Tu considères qu'il est mature et que les gens vont pas avoir l'impression de payer pour du vent. Parle-moi un peu de ce processus de bêta privée. Combien de temps, grosso modo, est-ce que ça dure? Combien de personnes est-ce que tu as envie d'avoir dans la bêta? Et quel type d'insight ou d'apprentissage tu as envie d'avoir à l'issue de ce processus de bêta?
Alors nous, en fait, ce qu'on va faire là, donc pour donner un peu plus de contexte, c'est Lemlist, il y a eu plusieurs versions des gros lancements, on va dire, qu'on a fait. Donc il y avait la Lemlist qu'on a lancée, la première version. Après, on a fait un gros lancement 2.0 où on rajoutait un nouveau plan avec encore plus de personnalisation, etc. Et là, on lance 3.0. Et cette fois-ci, c'est plus que du mail, c'est du multi-channel. Donc ça change totalement la façon de prospecter, tout ça. Et on s'adresse à des équipes qui sont beaucoup plus grosses. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on lance une waiting list, donc les gens peuvent s'inscrire. Et quand ils s'inscrivent, en fait, ils ont des actions qu'ils doivent faire afin d'avoir des points. Et donc, afin d'arriver sur la. Afin de pouvoir être onboardé, ils doivent atteindre 100 points. Et dans ces actions, il y a des likes sur YouTube, des posts sur LinkedIn, etc. Et donc, le but, en fait, c'est de se servir de notre communauté et de nos fans comme vraiment, tu vois, des early adopters et aussi des gens qu'on motive à encore plus nous soutenir sur tous les réseaux. Et donc, du coup, l'idée, pour répondre à tes questions à propos de l'onboarding, on va vraiment onboarder à la main les gens. Donc, le but, c'est que ça soit quelqu'un de ma team ou moi qui, où on va faire un call, par exemple, de 30 minutes à 1 heure. Les gens, il y a un type form avant de pouvoir être onboardé qu'ils sont obligés de remplir, où là, on leur pose beaucoup, beaucoup de questions sur la façon dont ils font de la prospection aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire du multi-channel. Qu'est-ce qu'ils attendent du meilleur outil de sales automation? Essayer vraiment de comprendre quels sont. En fait, grâce à ce Typeform, le but, c'est de pouvoir refaire totalement la copie de notre site internet, tu vois, et de réutiliser, tu vois, les mots de nos propres clients dans les pains qu'ils ont au jour le jour. Et après, l'idée, en fait, pour nous, c'est assez simple de switcher, en fait, les clients qui veulent passer sur la V3. Et donc, en gros, on va commencer la bêta privée, je dirais, avec une dizaine d'équipes. Ouais, entre 10 et 20, 10 et 20 équipes qu'on a choisies. Et après, l'idée, c'est de rapidement onboarder jusqu'à 100. Tu vois, d'ici un mois, je pense qu'on aura au moins 100. Et après, potentiellement, en fonction de comment, en gros, la waitlist se passe et les actions des gens évoluent, en gros, donner accès de plus en plus aux gens qui auront atteint le bon nombre de points et du coup, les mettre directement. Et donc, en termes de durée, franchement, on n'est pas pressé parce que le but, c'est d'itérer à fond avec les bêta-testeurs. Et donc, tu vois, ça peut durer 6 mois comme ça peut durer 1 an, tu vois, aujourd'hui. Et on n'est pas pressé là-dessus parce qu'en fait, nous, on a une version, en fait, 2, la 2.0, qui est déjà, qui marche ultra bien et où on doit signer environ 100 boîtes, un peu plus de 100 boîtes aujourd'hui par semaine qu'on close en autopilote, etc. Et la V3, tu vois, elle sera encore mieux et ça sera facile d'upseller, en fait, toutes les personnes qui arrivent sur la V3. Et donc, on va garder ce côté un peu rare et difficile d'accès parce que, tu vois, on a envie vraiment de faire un truc qui soit crafté pour nos utilisateurs qu'on considère comme idéaux, c'est-à-dire des teams de plus de 10 commerciaux, tu vois, qui sont directement à utiliser la mise, quoi.
C'est intéressant ce modèle de l'ensemble parce que j'ai pas trop vu ça et peut-être que tu connais mieux le modèle des SaaS un peu plus early que moi, mais généralement, j'ai l'impression que les gens ils font des mises à jour et ils me disent, ben voilà, on a mis ça à jour. Et je dis, ah tiens, c'est cool, une nouvelle feature, tu vois. J'ai jamais vu de personne qui a fait tout un tintouin de dire, regardez, on a la version 3, on a packagé un truc. Généralement, c'est beaucoup plus progressif, on ajoute un petit truc par-ci, on ajoute un petit truc par-là, mais j'ai jamais l'impression qu'il y a une discontinuité, on passe jamais de la version 2 à la version 3. Tu vois, c'est un truc, c'est un peu continu et ça s'améliore au fil du temps. Ce que je trouve intéressant là, c'est que ça te permet d'avoir un effet d'annonce, ça te permet d'avoir un effet de quasiment presque au lieu de faire les trucs au goutte par goutte où les gens se seraient à peine aperçus que ça s'améliore, là, tu leur montres vraiment que ça s'améliore. Si tu ajoutes un effet de rareté, il y a cet effet où les gens ils mettent plus de valeur s'ils ont fait un effort pour y obtenir ou si tout le monde n'y a pas accès. Je suis curieux de savoir si toi, c'est quelque chose que tu vois souvent. Est-ce que c'est une stratégie qui est commune? Est-ce que c'est une stratégie dont tu as eu l'idée ou est-ce que c'est une nouveauté? Parle-moi un petit peu de ça.
Alors en fait, non, c'est pas du tout commun et c'est pour ça que c'est un gros test pour nous. Comme tu le dis, hein, tu l'as très bien dit, d'habitude, les gens annoncent plutôt des features au compte-gouttes, etc. Ça, on l'a fait pendant très longtemps et c'est ce qu'on fait aussi un peu sur la V2 parce qu'on continue, tu vois, d'ajouter des petites features, etc. Mais en fait, là, je me suis dit, on a vraiment moyen. En fait, j'ai passé énormément de temps à interviewer, tu vois, nos top clients. Et donc du coup, ouais, parce que donc pour donner un peu de contexte, peut-être, donc nous on a plus de 10 000 clients, c'est des boîtes en général B2B partout dans le monde, essentiellement basées aux US, 70%. Et en gros, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre quelle était la vie d'un commercial, tu vois, au jour le jour, quels étaient les points, tu vois, qu'il faisait vraiment le plus chier, et là où il perdait du temps constamment, et à quoi ressembleraient les techniques de prospection de demain, en fait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à imaginer la V3. Et du coup, je me suis dit, si on lance un truc totalement révolutionnaire, il faut que le process de lancement soit aussi révolutionnaire, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, comme on a une communauté, aujourd'hui, on a la plus grosse communauté autour des sales automation sur Facebook. Et en gros, du coup, comme on a cette communauté où les gens, en fait, à chaque fois qu'ils me parlent, tu vois, ils partagent leurs problèmes, ils partagent les points sur lesquels ils n'arrivent pas, enfin, tu vois, où ils demandent des conseils et tout. Et à chaque fois, je commençais à teaser un peu en disant, ça sera possible dans la V3. Et du coup, d'un coup, dès que je mettais un commentaire, tu avais, je sais pas, des vingtaines de personnes qui likaient, des gens qui me disaient « Guillaume, quand est-ce que ça arrive la V3 ?» etc. Nanana. Donc, j'ai beaucoup teasé. Bah, je me dis, tant qu'à faire, autant utiliser toute cette audience et le fait que les gens soient vraiment à fond pour demander pour une fois aux gens de nous rendre entre guillemets un peu l'appareil en faisant des actions pour nous aider à faire que le lancement soit, tu vois, un truc qui fasse énormément de bruit, quoi.
C'est quoi ton processus pour vraiment comprendre ce client? Tu as mentionné différentes choses. Tu as mentionné les sondages un peu plus formels du type Typeform.
Ouais.
Je suppose que tu leur parles. Tu as le côté un peu plus informel, à la fois dans le groupe Facebook, sur LinkedIn, dans les commentaires qu'on te donne. Et tu as aussi le côté, c'est un espèce de byproduct, c'est un espèce d'effet secondaire de faire des appels de vente et de ce processus de vente. Je serais curieux de voir comment est-ce que toi, tu formalises un petit peu tout ça, comment est-ce que tu réfléchis à l'équilibre de chaque élément et comment est-ce que tu structures, tu vois, parce que si tu apprends plein de trucs, tu as plein de petits éléments par-ci, par-là, comment est-ce que toi, tu réfléchis pour dire, OK, on va en faire un truc utilisable, et notamment utilisable par toute l'équipe?
Bah en fait, le truc, c'est que déjà, ouais, Facebook, ça nous apporte énormément d'insights. C'est-à-dire que les gens adorent poster, enfin, tu vois, quand ils ont des problèmes, comme la communauté est très, très active, les gens s'entraident énormément et donc les gens posent beaucoup de questions. Donc nous, une fois qu'on a ça, quand on voit des questions qui sont récurrentes et qui reviennent, on le note. Donc on a une partie où on va mettre, tu vois, tout notre product roadmap, les feedbacks, etc. Il y a aussi le support parce que du coup, on a un live chat et on a deux personnes qui bossent au support à temps plein pour gérer quasiment tous les fuseaux horaires. Et donc du coup, eux, dès qu'il y a des feedbacks qui reviennent, tu vois, ils les prennent, ils expliquent le use case exact. Et ils mettent des occurrences. Donc, combien de fois est-ce que des personnes ont posé ce type de... ou donnent ce type de feedback. Et après, tu as aussi la phase qui est ultra importante, c'est qu'il faut que tu comprennes quels sont tes utilisateurs qui te rapportent le plus d'argent et ceux qui sont potentiellement... Donc, en fait, tu sais, c'est le test Product Market Fit où, en fait, tu demandes à... Donc, ça se fait sous forme de Typeform. Donc, nous, en fait, on a une... Les gens, globalement, n'aiment pas trop remplir des Typeforms. Mais comme nous, on a une communauté très engagée, on a des taux de complétion de Typeform quand on envoie des mails à nos clients payants qui sont ultra élevés. Et en gros, tu vois, c'est le test classique où ta première question, c'est si demain, tu ne pouvais plus utiliser Lemlist, comment tu te sentirais? Réponse A, genre très déçu. Réponse B, quelque peu déçu. Ou réponse C, pas du tout déçu. Et tu vois, dans tous ceux qui ont répondu très déçu, ça, c'était fan, en fait. Donc ça, c'est les personnes que tu veux cibler. Tu veux trouver encore plus de personnes comme ça. Après, la deuxième question, c'est tu te demandes, selon vous, à qui correspond Lemlist, tu vois. Et là, en fait, techniquement, ils vont se décrire eux ou ils vont décrire des boîtes qui les ressemblent, tu vois. Et donc là, pareil, tu vois, tu obtiens plein d'infos. Après, tu leur demandes qu'est-ce que potentiellement vous aimeriez ajouter à Lemlist. Et donc là, tu vois, c'est pareil, c'est beaucoup de copywriting. Et en général, moi, quand je fais de la prospection ou quand j'envoie ce type de sondage, c'est toujours avec une vidéo, tu vois. Et dans la vidéo, je leur explique, c'est grâce à vous, tu vois, qu'on va réussir à construire le meilleur produit. Et ça, tu vois, c'est le mot que je... Enfin, tu vois, c'est mon motto depuis le lancement, quoi. C'est, je fais comprendre à nos utilisateurs qu'ils ont vraiment un poids important dans la décision des features qu'on développe. Et comme j'ai une équipe géniale et mes associés sont vraiment des brutes en tech, bah en fait, les gens, ils se sentent écoutés. Et plus tu te sens écouté, et quand tu vois que l'équipe produit t'écoute et rajoute des features, etc., que, dont t'étais, d'où tu avais eu l'idée, etc., bah, les gens se sentent beaucoup plus impliqués. Et donc, c'est là où on va récupérer pas mal de features. Donc, tu vois, grâce à ce test Product Market Fit qui te permet de focus à fond sur tes utilisateurs qui sont tes plus gros fans, bah, en fait, toi, tu vas pouvoir récupérer, en gros, les features qui sont clés pour ce type de personne, tu vois. Et après, évidemment, tu as la partie qui est beaucoup plus... donc, où là, c'est moins structuré, mais c'est des interviews où moi, je vais passer du temps avec des grosses équipes qu'on a et essayer de comprendre comment ils sont organisés chez eux, tu vois, quel est vraiment... Et là, tu comprends beaucoup plus le process global des sales, tu vois. Donc, les différentes étapes, c'est plus big picture, on va dire.
Le résidu de tout ça, comment est-ce que tu structures ce que tu as appris?
Alors ça, c'est dans Notion, en fait. Tu sais, tu vois l'outil, c'est un peu un wiki qui te permet de, ouais, de tout structurer.
Mais ouais, on peut expliquer. Donc Notion, c'est quoi? C'est un peu Evernote, mais en mieux.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est genre un mix entre Evernote, Trello, Asana, où tu peux gérer tous tes documents, tes roadmaps, tes boards. Enfin, il y a vraiment tout. Donc nous, on a toute l'équipe qui est dessus. Et en gros, là-dessus, on va... créer des cartes par type de feature que les gens voudraient avoir au sein de la plateforme. Et grâce à ça, en fait, on va mettre des notes qui vont varier en fonction de trois facteurs. Un, c'est l'occurrence. Donc, combien de fois est-ce que les gens... Enfin, en vrai, il y a quatre facteurs. C'est un, l'occurrence. Donc, combien de fois est-ce que les gens demandent ce type de feature? Tu vois, est-ce que c'est un truc qui est récurrent et qui revient? Tu vois, on est à 20 personnes l'ont demandé. Donc, tu vois, ça commence à peser un petit peu. Est-ce que le deuxième point, c'est l'impact? Donc, on met une note entre 1 et 5, qu'on appelle donc de M1 à M5, c'est l'impact marketing que ça peut avoir. Donc, typiquement, tu vois, tu as des features qui ont un gros impact marketing et d'autres qui n'en ont pas, tu vois, genre où tu ne peux pas écrire de contenu dessus et tu ne peux quasiment rien faire. Donc, ça, c'est une note qu'on décide avec l'équipe. Après, il y a une note aussi de 1 à 5 sur la partie tech, donc T1 à T5. T1, ça veut dire que c'est très facile à développer. T5, ça veut dire que c'est très compliqué. Du coup, tu vois, ça nous permet ensuite de gérer un petit peu, d'essayer d'avoir des quick wins, donc des features qui ont un impact marketing et qui sont faciles à coder. Ça, tu vois, c'est pas mal. C'est des quick wins qu'on peut décider de prioriser et de mettre en avant sur la roadmap. Et ensuite, il y a le point aussi très important. Quels sont les clients, tu vois, dans l'occurrence, qui sont les clients qui demandent, tu vois? Est-ce que c'est que les gens qui sont dans notre plan, par exemple, le moins cher? Ou est-ce que c'est des clients qui payent et qui sont avec nous depuis un an et demi et qui payent, je ne sais pas, 1 000 euros par mois, tu vois, par exemple. Et en fonction de ça, bah, y a quand même un impact parce qu'en fait, l'idée, c'est que ton produit aujourd'hui, comme le SaaS, en fait, ça évolue tout le temps, ton produit aujourd'hui et tes clients d'aujourd'hui ne seront pas tes clients de demain et ton produit ne sera pas le produit que tu as actuellement. Et c'est à toi de savoir où est-ce que tu veux amener ton produit. Et parfois, c'est important de décevoir certains utilisateurs parce qu'ils ne rentrent pas dans ta cible. Et c'est OK, tu vois. Il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui se disent qu'ils veulent, en gros, plaire à tout le monde. Et en fait, qui se retrouvent à faire un produit rapidement qui ne ressemble à rien et qui ne correspond plus aux besoins de leur cible initiale, tu vois.
Surtout si tu commences à rajouter un petit peu toutes les features que tous les gens te demandent un petit peu. Si les gens ont différents profils, finalement, tu peux facilement construire quelque chose qui est entre deux chaises et qui correspond vraiment aux besoins d'aucune de ces deux cibles.
Ouais, exactement. Ouais, exactement.
Je voudrais qu'on creuse dans cette idée de communauté que tu as mentionné plusieurs fois et qui est quand même un pilier chez vous. Donc, la communauté, tu l'as construite à la fois sur Facebook et sur LinkedIn. Facebook, ça reste le plus important pour toi?
Ouais, Facebook, aujourd'hui, c'est vraiment la communauté, tu vois, qui est autour de l'Aimlist. LinkedIn, c'est plus personal branding. Donc, c'est plus des gens qui me suivent. Et là, je donne des conseils un peu sur tout, tu vois, business, growth, acquisition, management, etc. Donc, c'est plus ma vie de CEO, en gros. Et la communauté, c'est beaucoup plus sur les sales automation. Ouais.
OK. Et LinkedIn, c'est quand même quelque chose qui va driver du lead pour toi sur Aimlist?
Ouais, beaucoup. Beaucoup, en fait, parce que du coup, tu vois, à chaque fois, en gros, en 2019, j'ai dû faire plus d'un million de vues sur mes posts. Et ça génère, en fait, des milliers de visiteurs sur le site et des conversions, en fait, instantanées, quoi. Et donc, on a beaucoup de gens qui en fait vont sur mon profil, voient que je suis CEO de Lemlist, vont sur Lemlist, sign up et après sont closés automatiquement, tu vois, sans que j'ai rien à faire.
Mais du coup, j'imagine que la différence entre ça et le groupe Facebook, c'est que le groupe Facebook a plus un rôle stratégique d'avoir la communauté, de pouvoir les activer de différentes manières, pouvoir derrière avoir tout ce système de recommandation ou de bêta ou cet effet d'annonce qui est là plus facile à faire sur Facebook. Du coup, c'est un groupe qui est dédié.
Ouais, exactement. C'est ça. Et puis, en fait, l'avantage du groupe, c'est en fait, déjà, un, les gens peuvent s'entraider. C'est pas que moi qui donne du contenu et tu vois, donc il y a des gens qui postent aussi du contenu. Il y a aussi un aspect de social proof où on a beaucoup, preuve sociale, il y a beaucoup, tu vois, de gens qui postent les résultats de leur campagne Lemlist. Là, récemment, par exemple, on a quelqu'un qui a utilisé Lemlist pour envoyer des invitations à son mariage et il a eu un taux de clic genre de 95% ou un truc 99%. Donc, il y a plein d'histoires, en fait, comme ça. Par exemple, un mec qui était sur Lemlist depuis 2 semaines et qui a signé un premier contrat à 20 000 euros, tu vois. Donc, il y a plein d'histoires comme ça que les gens postent dans la communauté. Et du coup, tu vois, ça crée une sorte d'émulation et les gens sont ultra motivés pour s'aider, pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne.
Tu crées du contenu au sein du groupe ou est-ce que c'est entièrement animé par les gens qui sont à l'intérieur?
Alors ouais, moi, je crée du contenu. En fait, je fais des lives aussi avec, tu vois, vraiment des experts en sales. Donc, tu vois, on avait eu Aaron Ross, tu sais, celui qui a écrit Predictable Revenue. On a eu Matt Iannarino, etc. Enfin, Mark Hunter, plein de personnes. Et donc, du coup, l'idée, c'est je fais des lives. Les gens peuvent poser aussi des questions pendant les lives. Donc, ça crée beaucoup d'interactions. Et après, on va distribuer tout notre contenu, en fait, aussi que mon équipe écrit, par exemple, sur notre blog à propos des sales. Dès que ça apporte de la valeur, on le pousse dans la communauté. On pousse aussi, tu vois, des tutoriels. Et on a ce qu'on appelle aussi Lemlister of the Week, donc le Lemlister de la semaine. Et là, c'est on prend un de nos utilisateurs qu'on met en avant et on détaille en fait toute sa campagne de prospection en regardant ses templates et on explique pourquoi est-ce qu'il a eu des résultats aussi bons, tu vois, dans sa campagne. Et donc comme ça, ça le met en avant et c'est assez cool, quoi.
C'est intéressant parce que tu traites vraiment la plateforme Facebook sérieusement. C'est un truc que je dis souvent aux gens, c'est-à-dire que si tu veux gagner sur une plateforme, c'est pas en faisant du petit contenu à droite à gauche, c'est aussi en le faisant sérieusement. Pour moi, ouais. Évidemment, ma grosse plateforme, c'est YouTube. Et pour percer sur YouTube, tu comprends les codes de YouTube, tu comprends comment faire une bonne vidéo, tu comprends comment est-ce que les gens interagissent avec YouTube et tu apprends comment ça fonctionne. Et c'est une des raisons pour laquelle c'est pas facile d'être bon partout. C'est une des raisons pour laquelle sur Instagram, j'y suis pas parce que je connais pas les codes d'Instagram et je suis pas bon là-dessus et c'est pas là où j'ai appris mon truc. Et il semble que vous avez vraiment compris comment est-ce que vous utilisez Facebook et vous le traitez vraiment comme une plateforme à part entière de diffusion de contenu, de création de contenu pour créer de l'engagement et pas juste un truc vite fait qu'on fait à côté et ça va marcher tout seul.
Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis la communauté, en fait, tu vois, c'est un truc où, pour moi, la communauté, c'est la vision long terme. C'est un truc, faut pas se dire je crée une communauté et d'ici un mois ou deux ou même un an, je pourrais commencer à générer du revenu directement, tu vois. C'est là, moi, ce que je vois, c'est ok, d'ici genre 3 ans, tu vois, on aura le but, c'est de continuer à être la plus grosse communauté des sales automation et on aura le plus d'insight et on créera, tu vois, une marque très très forte autour de notre produit et on aura des vrais fans, quoi.
Aujourd'hui, pour être dans le groupe, il suffit de s'inscrire ou est-ce qu'il faut déjà être client?
Non, il faut juste s'inscrire. Donc, quand tu rentres dans le groupe, tu as un questionnaire et nous, on essaye de faire en sorte de sélectionner les gens. Enfin, j'ai une personne qui s'occupe de la communauté, enfin, qui est community manager, qui s'occupe de sélectionner en fait les personnes en fonction de plusieurs caractéristiques. Tu vois. Il faut qu'ils rentrent potentiellement dans les cases de nos cibles, c'est-à-dire growth, marketing, sales, entrepreneur,
ouais.
Et que ça ne soit pas des concurrents. Parce qu'on a énormément de concurrents qui essayent de venir espionner un peu ce qu'on fait. Et du coup, ouais, on essaye d'être vigilant, ouais. Quoi, là-dessus.
Et en tout, tu as combien de membres dans le groupe aujourd'hui?
Aujourd'hui, il y a un peu plus de 7000 membres.
À quel moment est-ce que les gens vont rencontrer? Donc, mettons, si j'arrive sur ton site et que je m'inscris, à quel moment est-ce que je vais rencontrer le groupe Facebook? Est-ce que c'est directement sur le site? Est-ce que c'est dans les emails? À quel moment est-ce que dans ton funnel, tu vas le mettre en avant?
Ben ça, c'est un truc où on essaye, on fait beaucoup de testing, mais globalement, on essaye de le mettre dans le premier email d'onboarding. Ça fait partie des choses qu'on demande aux gens. On leur demande 2 choses. Un, m'ajouter sur LinkedIn avec une phrase un peu secrète. Et deux, de rejoindre la communauté, tu vois. Mais idem, tu vois, c'est des trucs qu'on doit encore faire un peu plus de testing pour que le taux de conversion soit un peu plus élevé, tu vois.
OK. Donc, c'est vraiment pour assez rapidement, c'est quand même une priorité assez significative, j'imagine, si c'est dans le premier email. Ouais. J'imagine qu'un autre canal marketing assez important pour vous, étant donné le business que vous avez, c'est tout ce qui est l'outbound et le fait d'aller envoyer des gens et d'aller les chercher, d'aller les prospecter. Parlons un petit peu de là où tu en es aujourd'hui sur la stratégie en termes de cold mailing et comment est-ce que tu structures ça.
Bah alors en fait, ça, je le faisais énormément au début. Tu vois, quand tu es allé chercher en gros, tu vois, les 100 premiers clients, j'étais allé les chercher comme ça, où c'est moi qui faisais la prospection en utilisant l'Aimlist et justement en récupérant des clients. Après, jusqu'à 500 clients, bah, pareil, tu vois, je continuais à faire ça en parallèle d'autres choses. Et après, on a mis en place, tu vois, une stratégie très forte de contenu, communauté, tout ça. Donc, j'ai un peu réduit cette partie parce que j'avais plus trop le temps. Mais on a recruté quelqu'un qui s'est mis à temps plein là-dessus. Donc, qui fait pareil, beaucoup de prospection et qui, de ce fait, nous donne aussi beaucoup d'insights sur ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas dans le process, dans l'outil, tout ça. Donc, en fait, c'est bien de... Tu sais, en anglais, on dit genre « you need to eat your own dog food », tu vois, genre faut que tu... Bah, en gros, et ça, c'est important.
Faut que tu utilises ton propre produit.
Ouais, c'est ça. Utilise ton propre produit et c'est super important parce qu'il y a trop de gens, en fait, qui ont des CEO ou des fondateurs, quand ils commencent à grossir, qui n'utilisent plus leurs produits, ils ne savent pas à quoi ils ressemblent. Et moi, tu vois, je continue à lancer des campagnes. Ce n'est pas forcément toujours des campagnes pour faire de la vente parce que je l'utilise pour plein de choses. Mais des fois, c'est des campagnes de networking. Des fois, c'est des campagnes pour inviter des special guests dans nos lives, pour être sur des podcasts. Enfin, il y a plein de choses, tu vois, possibles.
Parlons un petit peu du contenu des emails. Donc, votre grand truc, c'est la personnalisation. Mais comment est-ce que tu réfléchis aujourd'hui à faire un email qui va avoir une réponse? Comment est-ce que tu réfléchirais à la longueur de l'email? Comment est-ce que tu réfléchirais à l'accroche, à l'appel à l'action? Et plus globalement, la stratégie, tu vois, quel est l'issue que tu veux avoir après un email. Je suppose que tu ne vas pas envoyer un email aux gens en disant achète et ils achètent directement.
Ouais,
comment est-ce que tu structures le follow-up derrière?
Donc en gros, tu as parlé de pas mal de points intéressants. Donc dans un premier temps...
Je peux te les refaire dans l'ordre si tu veux. C'est vrai que ma question était un peu comment est-ce que tu réfléchis à la longueur de l'email et à l'accroche par exemple?
Ouais, donc en gros, globalement, le point le plus important, c'est au tout départ, si ton email il n'est pas ouvert, il n'est pas lu. Donc, comment est-ce que tu fais pour que ton objet soit intriguant? Et ça, du coup, il y a deux options. L'option 1, c'est d'être assez casual. Et donc, ça va être des trucs que tu pourrais envoyer, par exemple, à des collègues, des amis ou des personnes que tu connais. Typiquement, café, point d'interrogation, lunch, point d'interrogation. Ou j'ai vu que tu étais, tu vois, une petite phrase comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui écrivent des débuts de phrases dans leur objet de mail. Tu vois, ce genre de choses. Ça peut marcher. Ou après, sinon, tu as l'aspect très spécifique. Par exemple, je sais que tu vas à telle conférence. J'ai récupéré la liste de toutes les personnes qui vont à une conférence. Et bah, du coup, tu vois, je vais mettre rencontre-nous à et mettre le lien de la conférence. Enfin, tu vois, le nom de la conférence et ensuite ton prénom, tu vois. Après, il y a d'autres choses aussi qui peuvent être assez intrigantes, comme par exemple, tu vois, si je t'envoie un mail où je t'écris feedback pour company name, donc ça serait feedback pour, ideas marketing and feedback, mania. Pour idées et feedback pour marketing mania, tu vois. Ouais. Bah, clairement, tu vois ça, tu te dis, bah, c'est gratuit, quoi, tu vois, c'est tombé dans mon inbox, il y a des idées et des feedbacks, j'ai bien envie de savoir ce que c'est, quoi, tu vois. Donc, tu vois, ça, c'est des trucs, en fait, il faut se mettre à la place de la personne qui reçoit des mails et se dire qu'est-ce qui me ferait ouvrir un message. Ensuite, l'autre partie importante, c'est la phrase d'intro. Donc, la plupart des mails commencent par... hello ou bonjour, prénom, tu vois. Donc, si par exemple, tu t'adresses à des marketeurs ou des sales qui envoient beaucoup de mails et en reçoivent beaucoup, bah, potentiellement, il faut faire ce qu'on appelle un pattern interrupt, donc casser en fait ce pattern dans lequel on est trop habitué, on est tous habitués à recevoir ça. Et au lieu de commencer par bonjour, machin, etc., tu peux commencer ta phrase par j'ai vu que blablabla. Et donc, en fait, la personne, quand tu regardes un email, tu vois l'objet et ensuite tu vois la première phrase. Donc, si je vois genre idée et feedback pour Marketing Mania, le premier truc, c'est j'ai vu que tu étais en train de... Et trois petits points, tu vois, bah là, tu te dis, ça m'intrigue encore plus, tu vois, j'ai envie d'ouvrir. Et en plus, tu vois, il met pas mon prénom. Et donc, là, par exemple, tu vois, ce que tu peux faire, c'est insérer le prénom de la personne seulement à partir de la deuxième phrase, tu vois. Comme ça, comme tu casses ce pattern que tout le monde utilise, bah en fait, rapidement, les gens ne sentent plus que le message a été envoyé automatiquement et ont l'impression que c'est un mail que tu as écrit, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la partie trouver donc l'accroche et réussir à faire en sorte que ton mail soit ouvert. Après, dans la structure, là encore, ça va dépendre de ta cible. Moi, ce que je conseille aux gens de faire, en fait, c'est de séparer sa cible en trois buckets, trois sauts, quoi. Le tiers 1, ça va être ton tiers qui te rapporte le plus d'argent. Donc, c'est le tiers où potentiellement, tu vas te dire, il faut que je mette un niveau de personnalisation qui soit le plus élevé possible parce que je veux maximiser mon taux de réponse comme c'est des gens qui me rapportent beaucoup d'argent. Tiers 2, c'est ceux qui te rapportent un petit peu d'argent, donc enfin un peu plus, enfin moyennement d'argent. Donc là, tu peux automatiser un peu plus. Et tiers 3, c'est là où tu peux totalement automatiser parce que tu sais que de toute façon, ils te rapportent le moins d'argent possible. Donc pour le tiers 1, nous, on a appelé, c'est ce qu'on appelle tiramisu, mais les gens, ils appellent ça icebreaker en général. Et là, l'idée, c'est pour chaque personne, il faut que tu aies préparé, tu vois, une phrase de personnalisation. Donc, par exemple, tu vois, moi, Stan, ça pourrait être, bah, écoute, Stan, j'ai regardé toutes tes vidéos sur tes chaînes YouTube. J'adore quand tu fais X, Y, Z, machin, machin. Clairement, tu vois, ça ne peut pas être automatisé. Tu vois, genre, j'ai dû passer du temps et c'est important. Donc, la première étape, c'est de faire en sorte que le message soit à propos de la personne que tu contactes et pas à propos de toi. Parce que là où les gens, en fait, directement, tu vois, font tous les mêmes erreurs, c'est que quand tu vends un produit ou service, bah, tu as tendance à tomber un peu amoureux de ce produit-service. Et donc, ton premier message, c'est hello Stan, est-ce que tu souhaiterais faire boum, 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 bullet point, bullet point, bullet point. Et là, tu vois, tu as perdu la personne et le mec t'a déjà mis en spam, tu vois. Alors que si je parle de toi, dans mon premier message, bah, clairement, tu vois, tu te sens... tu as l'impression déjà que la personne a passé du temps à personnaliser. Et donc déjà, pour créer une relation, ça commence un petit peu mieux. Ensuite, il faut avoir une phrase donc, qui soit beaucoup plus à propos donc, de ta value proposition. Donc par exemple, tu vois, ça pourrait être, je ne sais pas, il faut avoir bien compris sa cible, mais ça pourrait être si tu vends par exemple comme nous un outil de sales automation et qu'on s'adresse par exemple à un sales, on pourrait lui dire, comment tu te sentirais si, par exemple, d'ici 3 mois, tu pouvais aller voir ton VP Sales et lui montrer que tu as réussi, que tu utilises un nouvel outil qui te permet de booker 2 fois plus de rendez-vous. Toi, tu poses une question comme ça, évidemment que le mec, la réponse, bah, c'est « je serais intéressé ». Et après, voilà, là, une fois que tu as ça, c'est le hook un peu, tu vois, donc l'accroche. Et après, du coup, tu as le call to action. Donc là, c'est important de donner un nombre de choix qui soit limité. Donc par exemple, est-ce que tu serais disponible jeudi à 2h ou vendredi à 11h? Parce que comme ça, tu vois, tu limites la personne, elle a juste à regarder si jeudi 11h ou vendredi 12h elle est disponible, et là tu vois, comme tu n'as pas le paradoxe des choix où tu en as trop, etc. Et donc en général, bah, ça te permet de construire cette relation. Et après, du coup, tu as parlé aussi d'un point très important qui sont les relances ou follow-up. Et moi, ce que je conseille sur des sales, c'est de faire un total de 5 à 6 relances. Et là, tu vois, chaque relance, en fait, c'est une opportunité supplémentaire pour... Là, tu peux ajouter un peu plus de contenu, que ce soit des success stories que tu as eues avec des clients semblables à ceux que tu cibles. Un follow-up tout simple, juste pour dire est-ce que tu as bien reçu mon précédent message. Tu vois, genre une ligne très rapide, etc. Et après, voilà, tu vois, rajouter de plus en plus de contenu. Et là, tu peux parler un peu plus de toi dans les follow-up d'après et être, voire un petit peu plus pushy. Mais il faut toujours se rappeler que le mail de prospection, surtout quand tu fais ça sur des leads froids, donc des gens qui ne te connaissent pas, tu n'arriveras jamais à vendre de façon totalement automatisée. Le but, c'est de construire des relations. Donc, ton call to action doit amener un rendez-vous, un entretien téléphonique, un call, un hangout, peu importe, mais ne pas essayer d'amener sur des sales parce que ça ne marchera pas du tout, quoi.
Si tu fais 5 relances, tu les fais à quel intervalle ?
Alors, première relance, en général, c'est la relance très courte. Je voulais juste être sûr que tu avais bien reçu mon message précédent. Ça, je l'ai fait genre 2-3 jours après. Et après, j'alterne entre un délai de 6 à 8 jours entre chaque relance.
Pourquoi 6 à 8 ? Parce que pour pas être trop régulier sur le 7 ?
Ouais, c'est ça. Genre, parce que 7, ça fait vraiment trop automatisé. Les gens, ils se disent, bah, OK, ouais. Tous les jeudis, ils m'envoient le même message. C'est un peu chiant. Ce qui est cool, c'est d'alterner les jours parce que tu vois, ça peut... Tu connais pas l'emploi du temps de ta cible, tu vois. Si ça se trouve, en fait, le jeudi, pour lui, c'est le jour où il fait de l'équitation le soir et il a qu'une envie, c'est de pas regarder ses mails et d'avancer vite et de dépiler, tu vois. Donc, je pense que c'est important de varier ce genre de choses.
Donc, du coup, on est sur des emails qui sont assez courts parce qu'il y a deux approches de l'email. Il y aurait une approche qui serait de dire, OK, je veux être bien précis sur ma proposition de valeur, sur toutes mes features, etc. Toi, tu conseilles sur du cold email de pas faire ça.
Ouais, moi, je conseille en fait vraiment d'aller sur de la création de relations. Et c'est là où, en fait, l'aspect image personnalisée peut apporter aussi beaucoup. Parce qu'en fait, typiquement, tu vois, tu peux rendre la prospection beaucoup plus humaine. Donc, on avait, en fait, ben, tu vois, nous, on peut insérer dynamiquement des logos, des screenshots de sites internet sans que tu aies besoin de le faire à la mano. Et donc, du coup, tu vois, tu peux créer des images où toi, tu te prends en photo, par exemple, et tu vas mettre, tu vois, l'image qui marche très bien, c'est celle du Starbucks Coffee, là, où tu vois, tu as le petit gobelet Starbucks. Et dessus, j'ai mis le tag prénom. Et donc, je fais une photo avec un café. Et là, je te propose un café. Et si je t'écris à toi, Stan, il y aura écrit Stan sur le gobelet Starbucks, tu vois. Et donc, on se fait un café virtuel. Et là, le premier truc que tu vois, toi, quand tu ouvres le mail, c'est tu vois un mec avec un gobelet Starbucks avec ton prénom dessus, tu vois. Et pareil, tu vois, on peut faire des trucs où en mode, il y avait plein de nos clients qui se prenaient en photo avec leurs ordis et ils avaient mis le screenshot de la personne qui contactait de façon dynamique. Et là, c'était, en gros, ils disaient, ben, on était en train de regarder ton site internet et on a vu qu'il y avait deux, trois choses. En fait, on a noté 5, 6 idées. Les trois premières, c'était tac, 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 tac. Si tu as envie de savoir la suite, on se fait un petit call de 10 minutes. Promis, ça n'engage à rien, tu vois. Et là, pareil, tu vois, tu apportes de la valeur dans un premier lieu. Et ensuite, tu as la curiosité, tu as éveillé la curiosité de ton prospect. Donc forcément, ils vont vouloir passer en call avec toi. Et un autre truc aussi qui marche vraiment de façon… Enfin, là où c'est les meilleurs résultats, c'est la vidéo. C'est-à-dire que tu vois, tu fais une vidéo qui est soit personnalisée en fonction de la personne. Donc là, ça veut dire, OK, je vais vraiment faire des recherches sur toi, Stan. Et donc du coup, dans ma vidéo, je dirais « Salut Stan, je suis vraiment fan de Marketing Mania, nan, 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 et je mets tous les points. Et ensuite, je t'explique pourquoi est-ce qu'on devrait se rencontrer. » Ou sinon, je fais une vidéo qui est pour une cible spécifique. Et là, tu vois, c'est Hello, j'ai vu que bah, tu vois, tu lançais ta boîte, que tu vendais beaucoup de formations, etc. Je vois aussi que tu as une chaîne YouTube avec plein d'abonnés, je trouve ça top. Mais tu vois, là, toi, tu te sentirais touché par ce message parce que je t'ai décrit globalement en deux, trois lignes. Mais pourtant, des personnes qui ont une chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés et qui vendent des formations, je pense que je peux en trouver pas mal, tu vois.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est un peu les deux façons de faire de la vidéo quand tu prospectes, quoi.
Si tu envoies une vidéo personnalisée à quelqu'un, tu miserais sur quelle longueur de la vidéo?
Faut que ça soit genre moins d'une minute en général.
Le but, c'est avant tout de montrer que tu as pris le temps de faire une vidéo perso pour la personne plus que
Ouais,
de
c'est ça.
communiquer une tonne d'infos dans la vidéo.
Ouais, exactement. En fait, c'est moins d'une minute, un petit teasing, donc faire en sorte que la vidéo elle soit à propos de la personne que tu contactes. Ensuite, le hook, tu vois, donc l'accroche. Et enfin, le call to action, c'est-à-dire booker un meeting avec cette personne pour discuter de la suite, quoi.
Je voudrais parler un petit peu de ton rôle au sein de l'équipe. Donc toi, tu as mentionné tout à l'heure que tu avais été passé aussi par un parcours d'ingénieur et ensuite tu étais passé par le côté école de commerce. Est-ce que tu codes?
Aujourd'hui, non, pas du tout. Mes associés sont beaucoup trop bons et je pense qu'ils ne me laisseraient jamais ajouter une ligne de code.
Est-ce que le fait de savoir le faire t'aide aujourd'hui dans ton job?
Bah, honnêtement, moi, le code que je voyais en école d'ingé, c'était vraiment du C ou des trucs comme ça. Donc, c'est très bas niveau. Ça ressemble plus trop à c'est pas les langages qu'on utilise aujourd'hui pour faire des softwares. Après, ça, tu vois, ça m'aide à ne pas avoir peur d'Internet, tu vois. Parce qu'il y a des gens, par exemple, je sais pas, dès qu'ils ouvrent la console, par exemple, de leur navigateur, ils sont totalement en stress. Moi, ça va, tu vois, je sais me débrouiller. Donc, oui, ça peut m'être utile. Pour bidouiller deux, trois trucs et aller plus vite, automatiser quelques actions, ça je sais faire. Mais après oui, donc ça m'aide plutôt dans ma vie de tous les jours, quoi. Mais sinon, est-ce que c'est utile par rapport au développement produit, etc.? Non, parce que mes associés sont assez performants et j'ai pas potentiellement besoin, enfin, j'ai pas du tout besoin d'intervenir sur ce sujet, quoi.
Comment du coup est-ce que tu vois ton rôle en termes de la boîte? Est-ce que tu es CEO de la boîte? Est-ce que tu es plutôt le marketeur? Comment est-ce que tu vois cet équilibre? Parce que le côté, j'imagine, d'être la personne qui est le plus au contact du client et qui connaît un petit peu toutes les features, assez rapidement, ça fait de toi une personne centrale. Je suis curieux de voir comment est-ce que la dynamique fonctionne au quotidien avec tes associés.
Ouais, bah en fait le truc c'est que je pense que j'ai eu beaucoup de rôles. J'ai été le marketeur, j'ai été le head of growth, j'ai été le sales, j'ai été le customer support. Donc tu vois j'ai un peu tout fait. Après quand tu scales, bah t'engages des personnes, tu recrutes. Et donc là tu vois par exemple on a vraiment atteint une phase d'hypercroissance, on doit recruter etc. beaucoup. Donc là tu vois j'ai plutôt un On va dire que j'ai un poste où j'ai des équipes marketing maintenant qui bossent et qui ont bien compris que j'ai bien formé sur comment faire les choses, etc. Donc, qui sont devenus meilleurs que moi sur certains sujets. J'ai la partie plus sales, où là, tu vois, je passe un peu plus de temps avec notre Head of Business Development pour la former, qu'elle monte en compétences pour qu'elle puisse prendre aussi toute cette partie et scaler l'équipe. À côté de ça, je recrute aussi, tu vois, sur la partie business developer, etc. Donc, tu vois, je passe du temps à faire passer des entretiens, tout ça. Et il y a aussi toute la partie, en fait, produit, où comment tu fais pour bien vendre ton produit, mettre en avant les features, etc. Où là, je suis encore assez présent parce que du coup, je pense qu'il y a peu de personnes qui réussissent vraiment à bien mettre en avant des process et à avoir ce côté professeur, entre guillemets, tu vois, ou enseignant, pour montrer aux gens comment faire les choses de façon simple, bien, carré, précise, tu vois.
Donc là, concrètement, c'est quoi ? Tu fais des vidéos pour expliquer comment et s'il faut faire les choses ?
Ouais, ça va faire partie, tu vois. En fait, on va dire que mon rôle, il évolue vachement avec le temps. J'avoue que c'est une réponse un peu nulle à ta question parce que peut-être que tu voulais un truc un peu plus spécifique. Mais...
Non, et c'est surtout intéressant de voir en fait où est-ce que tu en es aujourd'hui. Ma zone d'intérêt ici, c'est de comprendre, on sait comment tu démarres, où tu fais tout, et on sait comment tu arrives à un point où essentiellement, en tout cas dans l'idéal qui est vendu, tu es devenu quasiment obsolète. Moi, je m'intéresse à la phase de transition entre les deux. Et qu'est-ce que tu remplaces en premier ? Qu'est-ce qui est le plus facile à remplacer ? Qu'est-ce qui est le plus dur à remplacer ? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à remplacer et qui est surprenant, tu vois ? Donc, c'est intéressant de voir même le point précis auquel tu en es aujourd'hui pour comprendre, OK, c'est intéressant, il a commencé par remplacer son rôle marketing et son rôle de sales. Ça a été le plus facile à remplacer peut-être, et peut-être que le côté produit est plus compliqué à transmettre.
Ouais, bien sûr. Le premier truc vraiment qu'on a remplacé, c'était la partie support. Parce que tu vois, là, c'est un truc où, en fait, comme tu as beaucoup de questions qui sont récurrentes, en fait, tu peux facilement former quelqu'un qui devient très bon et qui te permet de te libérer beaucoup de temps. Donc ça, c'était un point, tu vois, qu'on a remplacé rapidement. Mais on continue toujours à en faire, l'équipe fondateur. Tu vois, on doit passer peut-être une heure par semaine au moins à prendre des tickets et répondre, juste parce que c'est toujours important, tu vois, d'être proche du client. Sur la partie market, etc., comme tu dis, bah, ça s'est structuré assez bien. Après, la partie sales, bah, en fait, pareil, tu vois, je pense que sur toutes les parties, j'essaye de garder toujours, on va dire, un impact et de toujours avoir des petites phases où je vais passer du temps dessus pour vraiment recadrer les équipes et faire en sorte que tout le monde soit bien aligné avec la stratégie de la boîte. Mais après, sur la partie produit, c'est compliqué, ouais, de trouver des gens aujourd'hui. Et je pense que tu le vois dans les vidéos qui sont postées en général, des vidéos tutoriels, etc. T'as peu de gens qui maîtrisent l'univers du SaaS vraiment bien, tu vois. Et donc parfois, en fait, les gens ne voient pas du tout l'intérêt de certaines features parce qu'ils n'ont juste pas compris, en fait, comment ça marche. Et tu vois, là, je pense qu'en tant que fondateur, bah, c'est aussi notre but parfois d'expliquer et d'éduquer vachement l'audience et leur montrer les bénéfices de certaines features que certaines personnes pensaient inutiles, en fait.
Donc ça, pour toi, ça rentre dans la catégorie produit et pas dans la catégorie marketing?
Ouais, c'est un mix un peu des deux. Moi, j'appellerais ça du product marketing, quoi, tu vois.
On coupe la poire en deux.
Okay. Ouais, c'est ça.
J'aimerais bien comprendre comment est-ce que tu structures aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous êtes combien en tout sur l'équipe ?
Là, on est 15 au total.
Comment est-ce que tu structures ? Donc, combien de personnes sont directement report chez toi ?
Bah, en gros, je dirais qu'il y a 8-9 personnes qui sont sous ma partie. Et après, 6-7 sur la partie technique.
OK. Comment est-ce que tu organises la gestion de ces équipes ? Est-ce que tu mets tout le monde dans des appels ? Est-ce que tu as scindé différents pôles et tu parles à chaque pôle de manière séparée ? Est-ce que tu parles à tout le monde de manière individuelle chaque semaine ? Ou est-ce que c'est un appel de groupe ? Tu vois, explique-moi un petit peu, disons sur une semaine, comment est-ce que tu vas faire pour gérer un petit peu tous ces gens-là ?
Bah nous, en fait, on déteste vraiment les meetings de façon globale. Donc, en fait, on a un team meeting par semaine de 30 minutes où chacun a 2 minutes pour parler des tâches les plus importantes qu'il va accomplir dans la semaine et aussi dire s'il a besoin de quelqu'un dans l'équipe. Exemple, je lance une landing page, etc. pour tester un nouveau truc. Je vais avoir besoin à un moment de la tech team juste pour mettre un truc en prod, tu vois. Ça peut être ça, tu vois. Donc, tu vois, ça peut être ce type de phrase. Après, ce qu'on fait, c'est que j'essaye de voir en fait les gens qui ont le plus besoin de moi, donc qui sont dans leur phase d'onboarding, etc., passer plus de temps avec eux. Ça, c'est important.
Donc là, sur des appels juste à deux.
Ouais, voilà, donc du one-to-one. Et ensuite, on fait une réunion un peu plus longue avec mes associés de 1 heure minimum par semaine, où là, on parle vision, recrutement, tous les points importants, tu vois, administratifs, etc. Où là, c'est la réunion, je pense, la plus importante de la semaine. Et après, du coup, les équipes, il y a des managers dans chaque équipe. Donc, j'essaye de m'entretenir avec les managers des équipes, plus régulièrement. Mais après, c'est très variable. Ça dépend en fonction des besoins. Et l'avantage, en fait, pour nous, c'est qu'on a, dans Notion, toujours ce même outil, on a en fait des toggles, donc des listes déroulantes pour chaque semaine. Et chaque semaine, chaque personne met toute sa to-do. Donc, toutes les tâches qu'il doit accomplir. Et donc, comme ça, ça permet très rapidement, en quelques coups d'œil, voir ce que les gens font et voir si potentiellement ils vont avoir besoin d'aide ou pas, tu vois, sur certains sujets. Et l'idée, c'est que tous les vendredis, je demande à chaque personne, tu vois, quitte d'arrêter de travailler plus tôt pour justement passer du temps à faire sa to-do de la semaine d'après. Comme ça, ils partent en week-end tranquille. Et quand ils arrivent lundi matin, ils savent exactement les tâches. Là-dessus, tu vois, je suis très exigeant sur l'organisation et je force vraiment les gens à suivre ce modèle parce que je sais que ça marche bien. Et quand on est une équipe, tu vois, où on bosse, nous, on est tous en remote, donc télétravail, on a besoin, tu vois, de bien communiquer et de savoir ce que les gens font globalement pour mieux travailler en équipe, en fait.
Quel chiffre est-ce que tu suis de manière hebdomadaire ?
De manière hebdomadaire, je suis le nombre de sign-up, le nombre de personnes activées, le nombre de MRR qui rentrent, donc de revenus récurrents qui rentrent, le nombre de revenus qu'on a perdu et donc du coup le net profit, quoi.
Et ça, tu le présentes comment et qui s'occupe de collecter ces chiffres-là ?
Ça, c'est moi qui le fais en fait tous les lundis matin. Je fais un petit rapport que j'appelle l'M-List Weekly Metrics. Et donc, du coup, je mets toutes les... En fait, pourquoi est-ce que je le fais ? Parce que, du coup, j'analyse un peu plus en profondeur. Tu vois, par exemple, dans les clients qu'on perd, j'explique un petit peu ce que c'est. Dans la croissance qu'on a, j'explique aussi les points qui sont importants et les actions qui ont bien marché. Comme ça, tu vois, du coup, ça remet un peu toute l'équipe, ça motive un peu toute l'équipe le lundi matin. Et donc, du coup, tu vois, tout le monde a accès. C'est vraiment... En fait, nous, toutes nos données dans l'équipe, elles sont publiques. C'est-à-dire que tout le monde sait combien de cash on fait, tout le monde sait qui sont nos clients, tout le monde sait notre taux de croissance. Enfin, ça, c'est vraiment, tout est transparent, quoi.
Et donc, tu publies ce document et tu l'envoies à toute ton équipe?
Ouais, c'est
pour
ça.
Pour que tu puisses diffuser ce que tu as appris.
Ouais, tout est dans Slack et comme ça, tu vois, c'est le lundi matin, les gens le voient et du coup, ils sont, ça motive, tu vois, pour la semaine et c'est cool, quoi.
C'est quoi? C'est des slides que tu fais?
Non, c'est vraiment un texte. Ouais, c'est un texte, okay. Ça prend... C'est peut-être 4 paragraphes et voilà quoi.
Ok, je vois. Si tu voyais quelqu'un qui est une personne qui, mettons moi, qui est entrepreneur, tu vois, j'ai fait un certain nombre de choses, mais j'ai jamais vraiment fait de logiciel. Ou quelqu'un, tu vois, qui a une expérience, tu vois, qui est un freelance, un consultant, quelqu'un qui comprend un peu le marketing, mais qui a pas l'expérience d'avoir vendu du logiciel. À ton avis, c'est quoi les principaux blind spots de cette personne qui va se lancer dans le logiciel? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre? Qu'est-ce qui lui manque dans son expertise de marketing lambda dont il va avoir besoin s'il veut faire du SaaS?
Je pense qu'il y a plusieurs points. Il y a l'aspect produit, tu vois, où là, ça peut être, pour moi, c'est là où j'ai le plus appris, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'une expérience utilisateur est bonne? Comment tu fais pour déterminer quel est le taux d'activation, tu vois? Parce qu'en fait, aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'on peut, enfin, c'est un avantage et un inconvénient, c'est qu'on peut tout mesurer, tu vois. Si tu as envie de mesurer combien de personnes ont cliqué sur tel bouton, tu peux le faire, tu vois. Mais réussir à savoir quelle est la métrique qui va lier une action à du revenu, donc à de l'argent, au fait que les gens te payent et continuent à te payer, tu vois, de façon récurrente, ça, c'est pas évident, tu vois. Et donc, du coup, c'est comment est-ce que tu fais pour mesurer seulement les choses qui comptent? Et là, du coup, c'est passer du temps, tu vois, c'est avoir une sorte d'intelligence produit, passer du temps avec tes utilisateurs, vraiment bien comprendre, tu vois, la partie utilisation, quoi. Qu'est-ce qu'ils font mal, qu'est-ce qu'ils font pas bien, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans le produit. Et parce qu'en fait, tu vois, très rapidement, même si, tu vois, moi, je fais beaucoup de tutoriels, etc., il y a des fois, tu vois, je faisais des interviews et les gens, ils n'ont aucune idée qu'ils pouvaient faire certaines choses, tu vois. Et quand ils le découvrent, ils sont trop contents. Mais en fait, cool, tu vois, tu en as converti un, mais le truc, c'est que tu as mal fait ton taf parce que tu n'as pas converti tous les autres, tu vois. Et ça, c'est un problème. Et donc là, c'est un truc, quand tu te lances et que tu es fondateur, c'est un truc assez difficile.
Parce que c'est une compétence qui est extrêmement spécifique, en fait, et qui n'est pas forcément généralisable de comment est-ce que tu as cet insight et comment est-ce que tu le traduis sur les actions qu'il faut faire, comment est-ce que tu le traduis concrètement. Ok, les gars, ils trouvent pas la fonctionnalité, ils savent pas que ça existe. Tu as fait une vidéo, ils l'ont pas regardée, ou ils l'ont pas vue, ils l'ont pas trouvée.
Voilà, c'est
maintenant,
ça.
Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux pas toujours communiquer et prendre chaque personne par la peau du cou pour lui montrer le truc? Donc, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu traduis ça dans ton produit? Ben, en fait, il faut qu'on change le texte qui est sur le bouton, il faut qu'on change l'endroit où cette feature est, ou il faut qu'on mette un petit texte explicatif, il faut que tu sois capable de traduire ça sur le média que tu as, c'est-à-dire une interface utilisateur. Et ça, c'est, effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique, dont tu n'as jamais l'expérience si tu n'as jamais fait de logiciel.
Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment, c'est une des parties, je pense, qui est la plus complexe. Ouais.
À ce niveau-là, est-ce que tu as des ressources, que ce soit des livres, des formations qui t'ont aidé à ce niveau-là, ou est-ce que tu l'as appris vraiment sur le tas?
Bah, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un livre déjà qui est pas mal, tu vois, sur la partie UI, UX, je crois que ça s'appelle Refactoring UI ou un truc comme ça. Ça, c'est pas mal parce que ça te montre des bons exemples. En fait, il te montre, par exemple, une interface genre d'Airbnb, tu vois. Et après, il va te montrer comment est-ce qu'il aurait pu la faire en beaucoup mieux, quoi. Et en fait, c'est deux exemples. Et à chaque fois, tu sais, t'as le truc genre que les gens font et ce que lui aurait fait. Et il t'explique pourquoi c'est mieux. Et franchement, c'est quand tu le vois, tu te dis, bah oui, clairement, si je suis face à ce formulaire, bah ça marcherait beaucoup mieux, quoi.
Donc ça, c'est un livre?
Ouais, ça, c'est un livre. Après, je pense qu'un point qui aide vachement, c'est d'être le propre utilisateur de son software. Tu vois, par exemple, tu as des gens qui vont développer des CRM pour, je sais pas, des promoteurs immobiliers, par exemple. Mais si ces mecs-là, ce n'est pas des promoteurs immobiliers, c'est super difficile de se mettre dans la peau de la personne que tu cibles. Enfin, tu vois, c'est vraiment un travail. Genre, je pense que quand tu commences, en tout cas, tu vois, c'est très, très compliqué. Donc, moi, je conseille en tout cas aux gens d'être leur propre cible. Je trouve que c'est important, même si ce n'est pas essentiel. Mais je trouve que ça peut vraiment être pas mal dans le software. Alors que tu vois, quand tu es marketeur online, bah, tu vois, tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Si demain, j'ai envie de vendre un truc pour des femmes enceintes, bah, je peux le faire, tu vois, parce que je vais passer du temps à comprendre comment les femmes enceintes fonctionnent. Mais tu vois, ça ne sera pas dans l'utilisation, ça ne sera pas dans, tu vois. Et ça, du coup, c'est...
C'est plus facile de faire un sondage sur, OK, c'est quoi vos problèmes en termes de femmes enceintes? Et ce n'est pas non plus évident pour la plupart des gens, mais si tu es fort en marketing... Ton sondage, ouais. Tu parles aux gens, tu comprends leurs besoins, tu comprends comment communiquer. Et ça, comme c'est beaucoup d'éléments qui sont verbaux, les gens sont capables de t'expliquer quels sont leurs problèmes et quelles sont leurs envies, versus la plupart des gens ne sont pas capables de t'expliquer pourquoi ils utilisent telle ou telle application ou tel logiciel, ou pourquoi est-ce qu'un logiciel est agréable et un autre est chiant. Ils ne peuvent pas te l'expliquer. Donc, la seule façon vraiment de le comprendre, tu poses, c'est soit trouver un moyen de les observer pendant qu'ils l'utilisent, et encore, c'est assez compliqué de faire ça, ou alors d'être toi dans cette situation et d'avoir le modèle mental non-verbal de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi.
Ouais, exactement.
Guillaume, avant de terminer, il y a trois questions que je pose à tout le monde pour conclure ces épisodes. Et la première, c'est, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent?
Ouais, juste un ou je peux en recommander plusieurs?
Tu peux en recommander plusieurs si tu veux, ouais. Il n'y a pas de problème.
OK. Il y en a un que j'aime bien, là. C'est The Sales Acceleration Formulas. Donc, c'est en gros Marc Roberge qui explique comment il a passé HubSpot de 0 à 100 millions de revenus récurrents. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de passages qui sont différents, donc sur comment tu fais pour recruter les bons commerciaux, comment tu fais pour structurer ton pitch de vente, comment tu fais... Enfin, il passe sur vraiment des trucs très actionnables que j'aime bien. Et après, un livre que j'aime bien aussi, plutôt psychologie, marketing, tout ça, c'est Dan Ariely. C'est Predictably Irrational. Ouais. Et je trouve que c'est très, très bien parce qu'en fait, c'est plein d'exemples de la vie de tous les jours avec des expériences scientifiques, mais sans que ça soit barbant, etc. Et donc, très facile à lire, très intéressant et ça te permet de comprendre rapidement les principes de base et tout en découvrant des petites anecdotes sympathiques, quoi.
Celui-là existe en français. Je sais que les gens vont se poser la question. L'auteur s'appelle Dan Ariely et le nom en français est totalement différent de la manière dont ils l'ont traduit. Donc, ni toi, ni ouais. moi, de saurons ouais, dire le nom en français. Mais il existe. Si les gens cherchent Dan Ariely, ils le trouveront. Et on mettra aussi le lien vers la version française dans la description de l'épisode. Il n'y aura pas de souci avec ça. Un autre livre, Guillaume, que tu voulais ou c'était les deux principaux?
Non, c'était les deux. Ouais. Je pense que c'est déjà pas mal. Parce qu'après, si on donne la liste, ça va être trop long.
Écoute, je suis content que tu sois passé parce que quand je pose cette question, les gens disent des livres, c'est toujours intéressant, mais souvent, c'est des livres que j'ai déjà lus, tu vois. Les gens sont un peu... Ils me donnent des livres que j'ai déjà lus, je me dis, tiens... Parce qu'il y a beaucoup de mes intervenants qui viennent un peu de la même culture de business que moi.
Okay.
Et toi et moi, on a une culture de business qui est un petit peu différente.
Ouais.
Ce qui veut dire que les deux premiers que tu as mentionnés, Refactoring UI et Sales Acceleration Formula, c'est des livres que je n'ai pas lus, tu vois. Je me dis, putain, ça va être super utile. Et c'est un petit peu dans une... Je sais pas comment dire, tu vois, un truc un petit peu parallèle de ce que j'ai fait, mais un truc que j'ai pas autant creusé, tu vois, que je connais pas aussi bien. Et voilà, bah du coup, ça m'a fait plaisir. Je vais pouvoir ajouter ça à ma liste de lecture.
Content d'avoir pu t'aider.
La question suivante, c'est si tu pouvais revenir en arrière et voir le Guillaume quand tu avais 20 ans, quel conseil est-ce que ce mec-là, il avait besoin d'entendre?
Franchement, je pense que c'était juste entreprendre dès maintenant, quoi. Parce que j'ai passé du temps, pas mal de temps à faire des études, tu vois. Moi, j'ai fait des trucs qui n'avaient rien à voir. Donc, j'ai commencé par la chimie. Je suis allé vivre en Écosse où on m'a même proposé un doctorat parce que je faisais de la recherche sur la synthèse des médicaments. Donc, tu vois, ça n'a vraiment rien à voir. Et après, je suis parti à HEC faire, tu vois, du marketing, etc. Et même si j'ai adoré mes études, tout ça, en fait, je pense qu'une année d'entrepreneur, j'ai dû apprendre peut-être 10 fois plus que tout ce que j'ai appris condensé dans mes études, tu vois. Et c'est tellement un bonheur, en fait, de se dire que tu peux tout apprendre en ligne. Enfin, tu vois, toi, tu parles de plein de choses dans tes vidéos, etc. Elles sont super. Et je pense que ça motive vachement les gens à se former. Et en fait, comme tu sais que tu peux tout trouver en ligne maintenant, ben, il n'y a plus d'excuses, en fait. C'est un monde qui est nouveau et que beaucoup de personnes encore... Enfin, je pense que tu dois avoir... aujourd'hui, je pense que la formation sur Internet... ça doit toucher peut-être que 1% des gens qui habitent sur Terre, tu vois, c'est rien encore parce que les gens ne voient pas tout ce qu'on peut faire sur Internet. Et je pense que ce serait vraiment mon conseil, quoi. C'est forme-toi sur Internet, lance des business, limite même en parallèle, c'est pas grave, teste des trucs. T'as pas besoin de beaucoup d'argent pour te lancer et fais-le, quoi.
Ce que j'avais entendu dans tes interviews, qu'il y avait une part de toi, et on n'est pas entré trop dans le sujet, mais il y avait une part de toi qui pensait que même pour les M-List, elle allait avoir besoin de lever de l'argent et d'avoir des investisseurs et d'avoir un truc beaucoup plus.
Ouais.
Estampillé par les autorités en place plutôt que de dire je vais faire un truc, je vais le mettre sur Product Hunt et ça va monter un gros business derrière. Ouais. Donc c'est vraiment ça, peut-être le déclic, tu vois, de se dire au final, tu peux commencer avec un truc un peu simple, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir une validation officielle pour pouvoir monter un truc même.
Non, c'est clair. Et en fait, tu vois, je pense que c'est un gros problème qu'on voit aujourd'hui. Tu sais, c'est le rôle de la presse, en fait, dans le business de façon générale. Aujourd'hui, si tu regardes, tu n'as aucun article de presse qui va te parler d'un business parce qu'il fait énormément d'argent. Ils te parleront des business parce qu'ils lèvent de l'argent. Mais en fait, l'argent que tu lèves n'a rien à voir avec l'argent que tu fais. Et on le voit aujourd'hui puisque tu as beaucoup de boîtes qui lèvent qui se cassent totalement la figure, tu vois. Et donc, du coup, ouais, c'est clair. Moi, toutes les formations ou tout le contenu sur Internet que tu peux trouver qui te montre, en fait, qui t'apprend des choses sur comment lancer un business sans avoir, tu vois, des milliers d'euros à investir, je trouve ça super.
La dernière question que je pose à tout le monde, c'est est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit?
Alors, ouais, il y en a plusieurs. Il y en a une que j'aime bien, c'est je ne sais plus du tout qui l'a... Enfin, il y en a plusieurs. Il y a le truc que Michael Jordan a repris pas mal, mais en vrai, ce n'est pas lui qui l'avait dit initialement. C'est « You miss all the shots that you don't take ». Donc, tu rates toutes les shoots que tu ne prends pas, en fait. Et je pense que c'est vrai dans la vie. C'est-à-dire que toutes les opportunités que tu as, si tu les saisis pas, en fait, tu sais que tu vas les rater, quoi. Ça n'arrivera jamais. Il y a trop de gens, tu vois, qui restent un petit peu, tu sais, à se dire… Par exemple, je ne sais pas, décrocher le téléphone pour appeler un prospect. Il y a plein de gens qui se disent « Ouais, mais peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que je vais le déranger. » Tu n'en sais rien, en fait, tant que tu ne l'as pas fait, tu vois. Donc ça, c'est un truc assez important, enfin, une citation que j'aime bien et que je trouve qui motive pas mal. Et il y avait aussi, je crois, je ne sais plus ce que c'était la citation, mais ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Ça, j'aime bien parce que je sais que nous, tu vois, au moment où on s'est lancé, il y a beaucoup de gens qui nous disaient, vous arrivez dans un marché qui est ultra crowded, donc avec beaucoup, beaucoup d'acteurs qui existent depuis longtemps, donc qui sont très, très bien installés. Et vous n'arriverez jamais à rattraper tout ce que les gens vont faire. Enfin, tu vois, tout le monde nous disait que c'était impossible, etc. Mais en fait, tu vois, au final, on l'a fait et c'est cool, quoi. Aujourd'hui, tu vois, on est très bien implanté, on se fait recommander partout, partout dans le monde. Et donc, c'est assez cool.
Excellent, Guillaume, comme mot de la fin, c'est parfait. On va s'arrêter là-dessus. Merci d'avoir été avec nous pour partager tout ça. On mettra tous les liens pour retrouver tout ce dont on a parlé dans la description de l'épisode, comme toujours. Je te remercie d'avoir été avec nous.
Ben merci à toi Stan, c'était super.
Avec plaisir. Salut.
Salut.
Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous voulez recevoir ma newsletter du lundi, vous pouvez vous inscrire très facilement sur marketingmania.fr/mix. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.